Bonjour à toutes et tous. Merci de vous être rendu disponible pour ce petit moment d'échange et de présentation sur les différents postes que nous allons ouvrir pour la rentrée 2024 au niveau de administratif. Je propose que nous commencions par présenter les personnes qui vont participer à ce webinaire et ensuite je reviendrai vous présenter rapidement l'AEFE et les missions et les postes sur lesquels vous candidatez. Donc, à ma gauche. À
Bonjour, Laura Janerio, gestionnaire sur ce recrutement.
ma droite.
Bonjour, Virginie Chupin, DRH adjointe du réseau.
Et Fabienne Chartier, chef du bureau du recrutement, des voyages et des missions.
Et donc, je suis Bernard Pujol, le directeur des ressources humaines de l'AEFE. Donc, vous candidatez, enfin, vous allez peut-être candidater pour un poste à l'agence. Alors, peut-être c'est votre première candidature, peut-être c'est une candidature que vous avez déjà effectuée. Il est important quand même que nous vous donnions quelques éléments qui vous permettent de mieux situer, de mieux appréhender le contexte de l'AEFE dans les trois catégories de métiers sur lesquels nous allons vous recruter à cette rentrée, du moins les postes qui sont proposés. Des postes d'agent comptable secondaire dans nos établissements en gestion directe et dans nos, enfin, j'expliquerai un petit peu ce qu'est l'Institut régional de formation, puisque c'est aussi dans des instituts régionaux de formation où nous avons des DAF-ACS, donc DAF-ACS, et ensuite DAF et secrétaire généraux. Voilà, en fait, ce sont les catégories de métiers sur lesquels nous allons recruter, mais on reviendra, je pense, mes collègues reviendront sur les attendus un petit peu de chacune de ces fonctions et de ces missions à l'intérieur des établissements. Je crois que ça fait partie vraiment d'une connaissance qu'il faut que vous ayez avant de candidater et de réfléchir au poste que vous allez faire par rapport à votre parcours et aux attendus qui ont été déjà publiés sur les postes en termes de compétences attendues pour pouvoir espérer être pris lors des entretiens d'abord et puis sélectionné pour partir à l'étranger. L'AEFE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est près de 480 établissements, 580 établissements dans le réseau, dans 112 pays, qui scolarisent à peu près 400 000 élèves. Donc dans cette agence, ce qui est important, c'est que si nous revenons aux fondamentaux, nous sommes une agence qui fait de l'enseignement. Et nous avons une mission de service public d'enseignement dans ces lycées français à l'étranger. Ce qui est important, et vous êtes concernés aussi, même si vous êtes des gestionnaires d'établissements, c'est que ce qui est la caractéristique de tous nos établissements, c'est la relation que nous avons avec le ministère de l'Éducation nationale. Puisque même si aujourd'hui vous allez quitter vos ministères pour rejoindre l'AEFE, hein, avec un contrat dont la tutelle principale, la tutelle est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous avons quand même un rapport très étroit et privilégié avec le ministère de l'Éducation nationale. Ce rapport est lié à l'homologation. L'homologation est attribuée par le ministère de l'Éducation nationale. Souvent après une inspection, après pour s'assurer que tous nos établissements sont bien sur les normes d'enseignement, mais aussi les normes des établissements français. Dans une inspection d'homologation, on regarde aussi les classes, les espaces, on regarde aussi pour qu'on soit au plus près de ce qui est des attendus en termes, si vous voulez, d'homologation donnée par l'Éducation nationale. Pour dire que ben, un enfant qui fait ses études dans un lycée français à l'étranger, qu'il soit en Asie, qu'il soit en Amérique du Sud, qu'il soit en Europe ou en Afrique, cet enfant-là, quand il revient en France, il a les mêmes compétences normalement, même on l'espère plus développées, qu'un enfant qui a fait ses études soit à Paris, soit à Nantes. Donc, il est important que cette notion-là, vous l'intégriez aussi parce que pour ceux qui seront recrutés, vous risquez d'être concerné, pardon, d'être concerné par peut-être une homologation, une visite d'homologation dans votre établissement. Donc ça, c'est un sujet quand même qui est important. Comme vous l'avez certainement compris dans mes propos, donc vous allez appartenir au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. À partir de ce moment-là, Ben, il va falloir que vous intégriez aussi que une des notions importantes de la EFE, c'est la diplomatie et la diplomatie d'influence. C'est-à-dire qu'avec nos établissements, au-delà de la partie enseignement, nous participons à l'influence française dans le monde. Et donc, c'est l'image de la France qui est aussi véhiculée dans chaque établissement à travers l'enseignement, à travers ces personnels enseignants comme ces personnels d'encadrement dont vous souhaitez faire partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, vous avez nous avons la nécessité de vous préciser que la posture qui sera la vôtre dans vos établissements et dans la mission que vous allez exercer est au cœur aussi de l'exercice de votre fonction à l'étranger. Donc, vous voyez bien que c'est un sujet quand même qui est différent de ce qu'on connaît, de ce qu'on connaît en France, et différent aussi de par sa nature, de peut-être dans votre établissement où vous êtes aujourd'hui, un établissement public peut-être qui est autre que celui qu'un établissement de PLE ou un établissement de l'éducation nationale. Donc là, la partie diplomatique et la partie ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sera très importante. Deux petites précisions complémentaires. Suivant les établissements où vous allez travailler, vous allez être des adjoints des chefs d'établissement. Et vous allez faire partie de l'équipe d'encadrement du chef d'établissement. Je mets simplement entre parenthèses les agents comptables secondaires, qui eux ne sont pas sous l'autorité d'un chef d'établissement, mais dépendent directement de l'agent comptable principal basé à Nantes et qui est l'agent comptable public de l'AEFE. Donc, on a bien une tutelle qui est très, très claire. Si vous êtes en poste dans un établissement, qu'il soit conventionné ou en gestion directe, vous êtes sous l'autorité du chef d'établissement et vous êtes un de ses adjoints, mais la véritable autorité exercée, c'est celle de l'ambassadeur de France qui représente le ministre des Affaires d'Europe et étrangères et qui est responsable de tous ses personnels dans le pays où il exerce ses missions d'ambassadeur. Donc l'autorité hiérarchique, c'est l'ambassade de France. Et à travers cela, pour ceux qui connaissent, on a un autre personnage important auquel l'ambassadeur délègue très souvent le suivi de nos établissements. Il s'agit du conseiller de coopération et d'action culturelle. Voilà, c'est très rapide ce que je vous dis, mais je crois qu'il faut que vous intégriez très bien ces différentes petites notions qui permettent de mieux contextualiser comment fonctionne un établissement français à l'étranger. Après, on va revenir peut-être sur des spécificités liées aux différents types d'établissements et aux missions qui seront les vôtres, mais le contexte général, il est bien dans cet exercice-là, il est bien défini autour de ces quelques éléments que j'ai essayé de mettre en valeur pour cette mission pour laquelle vous allez candidater. Voilà l'introduction que je souhaitais faire pour ce webinaire. Je vais de suite passer la parole peut-être à mes collègues pour vous présenter la candidature et ensuite on reviendra sur les spécificités de chacune de mission.
Donc concernant la procédure de candidature, donc comme vous avez pu le voir, la liste des postes qui sont vacants pour 2024 sont actuellement en ligne sur le site de l'AEFE. Donc le site est ouvert depuis le 6 septembre et fermera le 28 septembre à minuit. Donc précisez bien, j'ai bien précisé minuit, parce que une fois ce délai passé, on ne peut plus du tout valider les candidatures et nous les récupérer. Donc il est important de saisir votre candidature avant cette date. Concernant les modalités d'envoi des dossiers, donc elles sont expliquées à la fin du dossier. Une fois que vous l'avez saisi et que vous l'imprimez ou vous le téléchargez, vous avez toutes les explications. Donc juste bien attirer votre attention sur le fait qu'il doit être envoyé en deux exemplaires. Le premier, donc à nos services à l'AEFE via France Transfert. C'est important de l'envoyer, comme précisé, via France Transfert pour que vous puissiez avoir un accusé réception comme quoi nous avons bien reçu votre dossier. Et le second exemplaire à votre hiérarchie, donc par le biais qui vous convient le mieux. À réception de la page des avis hiérarchiques, nous vous envoyons un accusé réception. Si vous n'avez pas de nouvelles, par contre, de notre part, enfin, pas le deuxième accusé de réception début novembre, il faut surtout pas hésiter à nous contacter hein, pour qu'on puisse bah, vérifier qu'on est bien votre dossier complet hein, ou si vous devez relancer éventuellement votre hiérarchie. Juste un petit point pour les candidats qui ne seraient pas issus de l'éducation nationale. Bien entendu, vous ne l'envoyez pas au rectorat, mais votre hiérarchie directe hein, qui nous le renverra ensuite. Hein. Concernant la procédure de recrutement cette fois-ci, donc une fois la phase d'inscription terminée, le pôle de recrutement commence l'étude des dossiers. On vérifie tout d'abord la recevabilité pardon, du dossier, puis ensuite l'adéquation profil poste. Concernant la recevabilité, donc, les différents points sont donc le grade. Les postes sont réservés à des fonctionnaires titulaires de catégorie A, fonctionnaires de la fonction publique française de catégorie A. Le statut, vous pouvez être en activité, en disponibilité ou en détachement. Juste par contre, concernant le détachement, à la date du 31 août 2024, vous ne devez pas être en cours de détachement, auquel cas votre dossier ne pourra pas être recevable. On vérifie aussi par rapport à l'expérience. Il faut que vous puissiez justifier d'un minimum de 3 ans de service effectif sur votre dernier poste occupé. Donc, la date est appréciée à la date du 1er septembre 2024 pour cette année. Et il faut aussi justifier d'une expérience avérée en France ou à l'étranger, en cohérence avec les vœux que vous aurez formulés au moment de votre candidature. Donc ça, c'était pour la première phase. La deuxième phase, on recherche l'adéquation profil poste avec des critères objectifs tels que les compétences développées dans les domaines administratifs et comptables, la concordance entre les fonctions actuelles et les fonctions de cadre administratif et financier à l'étranger, les avis hiérarchiques, l'entretien professionnel, les éléments de motivation, la connaissance en amont des postes sollicités, la cohérence dans le choix des vœux. À ce propos, n'hésitez pas à contacter les personnes qui sont déjà en poste pour avoir plus de renseignements, plus de détails sur comment se passent les missions à l'étranger. Et éventuellement, on peut regarder le niveau de langue. Selon certains postes ont des exigences de langue, souvent espagnol ou anglais. C'est précisé dans les profils de poste. Concernant les attendus, Monsieur Bujol a déjà déjà parlé de ça pour les 3 profils qui existent sur les missions de détachés d'encadrement administratif et financier. Là encore, il est important d'aller lire les profils de poste. Il y a plein d'indications sur les spécificités de ces postes. Une fois l'étude des dossiers terminée, une commission interne procède à la sélection des candidatures qui seront retenues pour un entretien. Tous les candidats sont prévenus de la suite donnée à leur candidature par courriel avec 2 cas de figure. Donc, soit le dossier est retenu et le candidat ou la candidate est invité à un entretien, soit le dossier n'est pas retenu car il ne satisfait pas aux conditions attendues. Mais là encore, vous êtes averti par mail. Pour cette année, les entretiens se dérouleront du 15 au 19 janvier 2024. D'une durée d'environ 30 minutes, l'entretien doit permettre de mettre en évidence les motivations et qualités personnelles, les atouts du parcours professionnel, l'adéquation de la candidature au poste correspondant aux vœux exprimés ou éventuellement à d'autres postes. À l'issue de cet entretien, la commission consultative paritaire centrale valide le recrutement. Pour cette année, ça sera aux alentours de mi-février 2024. Une fois la sélection validée, le pôle de recrutement procède à l'envoi des réponses suite aux entretiens avec 3 cas de figure. Donc, soit la réponse est négative, soit vous êtes informé que vous êtes sur liste de réserve, ce qui signifie que l'agence ne pourra pas vous proposer un poste dans l'immédiat parce qu'il n'y a pas d'adéquation avec le profil et les vœux, mais que vous êtes quand même sur liste de réserve, ou la réponse est positive. Et dans ces cas, vous recevez une proposition de poste avec un délai de réflexion d'environ 1 semaine. Vous pourrez mettre à profit ce temps pour prendre d'autres renseignements, comme par exemple le montant des primes, indemnités géographiques et fonctions spécifiques. Si vous répondez favorablement à cette proposition, le bureau du recrutement procédera à la demande de détachement auprès de votre ministère, ainsi qu'à la demande d'agrément auprès du poste diplomatique. Il est important de savoir que ces propositions de poste sont faites sous réserve de l'accord de détachement du rectorat ou de votre ministère d'origine, ainsi que de la délivrance de l'agrément par le poste diplomatique. Une fois les accords actés, la phase de recrutement est achevée et les dossiers sont transférés à nos collègues du pôle de la gestion administrative pour la prise en charge administrative et financière de votre dossier. Donc ça, c'est pour la partie vraiment candidature et puis...
Recrutement, dossier dans... Merci beaucoup. Je passe la parole à Virginie Chupin, la DRH adjointe.
Alors peut-être justement sur cette partie administrative et de contrat, si vous rejoignez l'agence, c'est en tant qu'agent non titulaire de la fonction publique, mais en conservant votre statut de fonctionnaire, puisque à l'agence, il n'y a pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'accueillir des fonctionnaires en détachement. Les détachements ont donc lieu sur contrat de droit public. En termes de rémunération, vous conserverez celle qui est la vôtre et l'indice nouveau majoré que vous détenez au moment de votre recrutement, sur lequel vous continuerez à cotiser à pension civile ou au régime qui est le vôtre si vous êtes en fonction publique territoriale, voire hospitalière. À cette rémunération indiciaire s'ajoute ce qui a été évoqué par ma collègue, l'indemnité géographique et de fonction spécifique qui tient lieu d'indemnité de résidence en France. Alors, cette indemnité dépend à la fois du pays et d'un groupe. Donc, on n'est pas en mesure de vous dire à un moment T, de vous faire un tableau et de vous dire bah, si je vais là, ça, j'aurai autant, etc. Sachez que le montant de cette indemnité est revu régulièrement. Il est arrêté par notre ministère de tutelle et il a vocation à prendre en considération le coût de la vie dans le pays, les aspects sécuritaires. Dans certains pays, il est beaucoup plus compliqué de se loger que dans d'autres. Les prix sont plus élevés que dans d'autres. Donc, cette indemnité a vocation non pas de vous rendre riche, mais de vous permettre de vivre correctement dans le pays de votre affectation, en sachant que dans la majorité des cas, nos postes ne sont pas des postes logés. Je pense que ça, c'est important à préciser. Je pense qu'il est important aussi de vous préciser que votre premier contrat, puisque l'objectif et l'engagement, c'est un contrat de 3 ans, mais avec normalement plus un, pour aboutir à une mission de 5 ans, donc inscrite dans la durée, si tout se passe bien, évidemment. Votre premier contrat de 3 ans verra votre indice nouveau majoré gelé. Ça veut dire que si vous avez une promotion et une évolution, un changement d'échelon durant ces 3 ans, il ne sera pas pris en compte en termes de rémunération. Il faut nous faire parvenir quand même l'arrêté, puisqu'on le prend en compte, en revanche, pour les cotisations de pension civile. Voilà, grosso modo, en termes de rémunération. Après, bon, pour les agents comptables, il y a l'indemnité de maniement de caisse, etc. Un complément aussi qui remplace le supplément familial de traitement par des majorations familiales, qui là aussi sont beaucoup plus élevées que le supplément familial de traitement servi en France. Mais là encore, ça ne fera pas de vous, ça ne fera pas votre richesse dans la mesure où son calcul et son montant est destiné à vous permettre de scolariser vos enfants dans un établissement d'enseignement français à l'étranger. Puisque certes, nous avons vocation à avoir une mission de service public d'enseignement, simplement dans les pays où nos établissements se situent, constituent des établissements privés et donc ont un coût en termes de scolarité pour les personnes qui souhaitent y inscrire leurs enfants, ce qui sera également, le cas échéant, votre cas. Avec une alerte peut-être justement d'avoir une attention particulière dans vos recherches aussi sur les possibilités de scolarisation des enfants. puisque tous nos établissements ne sont pas et n'ont pas la même homologation. Ce dont il a été question au tout début du propos introductif de notre DRH, sur justement les niveaux d'homologation de nos établissements. Il se peut donc que, en fonction de l'établissement, il n'y ait pas, dans l'établissement ou dans la zone, le niveau d'études ou la section de vos enfants. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en considération en termes de renseignements, puisque pour nous comme pour vous, il faut que cette expatriation soit un projet certes professionnel, mais aussi personnel et familial, véritablement d'ensemble. Parce que c'est une belle découverte, c'est très enrichissant, c'est chronophage en termes d'activité de travail, mais ça pose aussi un certain nombre de contraintes et de difficultés. Je pense que mes collègues peut-être ouais. Préciser.
Juste par rapport à ça, parce que c'est très bien d'avoir évoqué cette problématique du projet, en fait. Ce projet professionnel sur lequel vous êtes peut-être candidat dans les mois qui arrivent là, et dans les semaines qui arrivent, il ne faut pas en omettre la partie familiale et la partie, je dirais, du contexte familial. Quand vous allez partir à l'étranger, si vous êtes en couple, nous recrutons un seul le candidat. Le conjoint, hein, lui ou elle, n'aura peut-être pas le travail qu'elle a ou qu'il a actuellement en France. Donc tout ça, il faut l'anticiper pour ne pas arriver à un moment donné avec une énorme déception en se disant « mais finalement, c'est beaucoup moins intéressant que je croyais parce qu'en France, ben, on travaillait à deux, on avait peut-être déjà une maison, là je vais avoir un loyer à payer, je vais avoir un seul salaire au début et je peux me retrouver dans une situation qui sera compliquée ». Très souvent, les conjoints, lorsqu'ils travaillent dans l'éducation nationale, peuvent trouver du travail dans l'établissement, mais ce n'est pas une certitude. Ça ne peut pas être systématiquement un poste de détaché, ça peut être un poste en contrat local, c'est-à-dire avec une disponibilité. Donc ça veut dire, tout ça, ça doit être vraiment réfléchi pour que vous fassiez cette expatriation, parce que c'est ça en fait, hein, là on parle de l'expatriation au-delà du contrat, cette expatriation soit vraiment un projet familial anticiper pour éviter, si vous voulez, toute désillusion qui ensuite peut mettre à mal le projet professionnel. C'est pour ça qu'on vous en parle. Parce que l'objectif pour nous, c'est, comme ça a été dit, hein, vous verrez, l'engagement, j'en reparlerai après, et que nous vous demandons, il est très important. Et donc, il ne faut pas qu'à un moment donné, d'autres paramètres viennent perturber, si vous voulez, cet engagement et fassent que vous soyez, entre guillemets, malheureux en venant au travail parce que vous êtes submergé par d'autres problématiques autres que celles professionnelles. Je crois que ça fait partie vraiment d'une réflexion qui doit être au cœur de votre projet. Enfin, non seulement de faire le dossier, mais avant de se projeter vers un poste à l'étranger. Ça, c'est vraiment au cœur de la mission. La deuxième chose peut-être importante, c'est que si vous êtes un couple de personnel administratif, il n'y a pas de poste double à l'AEFE. Il n'y a pas de poste double, ça n'existe pas. En revanche, rien n'empêche d'avoir une candidature double, c'est-à-dire de candidater l'un et l'autre pour deux postes différents, qui peuvent être, alors généralement ça ne sera pas dans le même établissement, vous le comprendrez bien fort aisément, ça peut être dans des villes différentes si on est dans un pays où on a plusieurs établissements dans plusieurs villes, et ça peut être dans des pays limitrophes si jamais on avait ça. Donc la notion de poste double n'existe pas, mais de notre côté on ne veut pas aussi empêcher un projet qui pourrait être un projet professionnel familial, en sachant que vous n'obtiendrez pas une proximité de travail pour les raisons que vous connaissez, mais aussi parce que dans notre projet et politique agence, on essaie, si vous voulez, avec les compétences qui sont les vôtres, de pourvoir tous les postes, comme ça a été dit, en fonction de nos attendus, tous les postes à pourvoir. Je pense que ce moment-là, il est au cœur aussi de la réflexion que vous devez mener.
Pour insister sur ce point de la réflexion à la fois personnel et professionnel sur les postes de personnel administratif d'encadrement à l'étranger, donc des postes qui peuvent être très différents suivant le type d'établissement dans lequel vous allez exercer. Il y a une notion importante, c'est la notion de gestion des personnels en fait sur ces postes-là. Vous allez être amené à gérer des personnels de contrat local en fait et de droit local avec des conditions vraiment particulières. Donc, il est d'autant plus important d'essayer de prendre contact avec les collègues qui sont sur place pour avoir un petit peu une idée du fonctionnement de nos établissements à l'étranger. Si vous êtes dans un établissement en gestion directe ou en conventionné, ce ne sont pas du tout les mêmes problématiques. Et si les collègues en poste acceptent de s'entretenir avec vous, c'est vraiment intéressant effectivement de contacter plusieurs établissements pour avoir une idée des différences de conditions d'exercice au niveau professionnel, personnel bien sûr, familial, mais cette différence en fait d'exercice suivant le statut de l'établissement est importante. Cette année, vous avez dû remarquer que dans nos profils, on a aussi deux postes qui sont localisés en établissement conventionné et qui ont aussi la responsabilité en qualité d'agent comptable de deux IRF. Donc, ce sont des postes qui sont vraiment aussi avec un profil spécifique. Sur un autre... Je voulais parler des voyages. Donc, je voulais compléter en fait les conditions administratives d'exercice par la prise en charge des voyages. L'AEFE en fait, vous accompagne dans votre prise de poste, prend en charge les voyages pour vous et vos ayants droit, donc les conjoints mariés ou pacsés et les enfants, à la nomination, à la fin du contrat. Pendant en fait, la durée du contrat, vous avez aussi droit à la prise en charge de voyages de congé. Ce n'est pas le même rythme pour tout le monde. En fait, ça dépend d'un arrêté qui fixe le temps de séjour obligatoire à avoir effectué pour bénéficier d'un temps de congé, d'un voyage de congé. Ça peut être un an, 2 ans ou 3 ans. Et à la nomination et à la fin de mission, il y a également le versement d'une indemnité de changement de résidence qui permet d'aider aux frais de déménagement, dont 80% en fait du montant sont versés de façon forfaitaire sans production de justificatif. Et les 20% restants, on ne les verse que si vous nous produisez des factures qui correspondent à au moins 2/3 du montant total de cette indemnité. Mais bon, si on en est arrivé là, on vous renseignera, en sachant que tous ces renseignements, que ce soit d'ordre par rapport à l'indemnité de changement de résidence ou au salaire, elles seront vraiment finalisées qu'au moment de la signature du contrat avec l'agence. Au moment de la proposition de poste, il y a toujours en fait... On doit attendre l'arrêté de détachement de la part de votre administration d'origine. On doit attendre aussi l'agrément du poste diplomatique. Donc, on attend d'avoir confirmation de ces deux documents avant d'établir le contrat.
On a peut-être oublié de préciser au tout début qu'il pouvait poser quand même des questions sur le chat.
Oui, tout à fait. Oui.
Puisque vous avez vu, on vous a coupé les micros et tout ça pour une facilité d'exposer. Ce webinaire est enregistré, donc vous aurez la possibilité de le retrouver sur le site de l'agence. Mais vous avez un chat qui est possible et donc vous pouvez poser des questions. Alors, sur les questions individuelles, bien sûr, on ne va pas répondre et je vous demanderai, enfin, ça vous sera redit après, de contacter les collègues qui sont là. En revanche, s'il y a des questions générales sur la mission et sur des choses comme ça, il faut vraiment que nous soyons en capacité, on va essayer de vous apporter quelques réponses. On a oublié de le dire au début. Je vous prie de nous excuser de cela et on va essayer de répondre aux questions qui seront les vôtres si elles sont d'ordre général et que vous souhaitez poser par l'intermédiaire du chat. Voilà. Veuillez nous excuser.
Peut-être juste préciser aussi sur le contrat, vous allez avoir une double carrière, c'est le principe du détachement, hein, le temps de votre présence à l'agence. Donc une situation contractuelle que je vous ai expliquée, ce qui n'empêche pas au niveau de votre administration d'origine de poursuivre votre carrière. Et donc nous avons un bureau au sein de la DRH qui organise les différentes campagnes collectives, etc., qui sera en lien avec votre administration d'origine. Et donc vous aurez votre entretien professionnel annuel comme vous pouvez l'avoir l'avoir en France, vous serez sollicité également pour tout ce qui est liste d'aptitudes, tableau d'avancement, etc., etc. Voilà, ça c'est votre carrière poursuit son chemin dans votre corps et votre administration d'origine.
Peut-être quelques éléments complémentaires encore sur les différents peut-être fonctions sur lesquelles vous allez devoir exercer. Je vais parler de la première pour moi qui paraît importante parce que elle est pas facile. C'est celle de directeur administratif et financier d'un établissement conventionné. Dans ces établissements-là, vous allez être un conseiller. Un adjoint du chef d'établissement, je vais commencer par là. Vous allez être l'adjoint du chef d'établissement sur toutes les questions financières et budgétaires. Or, le côté financier et budgétaire n'est pas traité par vous et par l'AEFE, mais traité par un comité de gestion qui possède généralement un trésorier avec qui vous travaillez et qui va être en charge d'élaborer avec vous le budget, d'élaborer avec vous aussi le compte financier qui va devoir être remonté à l'agence. Et donc, vous allez être un conseiller à la fois du comité de gestion et vous allez transmettre, parce que vous avez travaillé sur la partie budgétaire avec le chef d'établissement, transmettre tout le besoin budgétaire auprès du comité de gestion, puisque eux, si vous me permettez l'expression, détiennent les cordons de la bourse et seront en capacité de gérer ou pas les demandes que vous ferez ou que fera le chef d'établissement sur le projet pédagogique notamment et les différents projets. Par exemple, vous avez un sujet qui peut être les salaires des personnels de droit local et tout ça, ça se travaille pas non pas dans votre coin, mais avec le comité de gestion et les règles du contrat de droit local dans lesquels sont recrutés les personnels dans le pays où vous êtes. Ce statut-là, il est quand même très difficile. Il va falloir trouver sa place entre un comité de gestion, un chef d'établissement et l'AEFE. C'est à la fois, ça peut être aussi très intéressant. Je suis revenu sur ce cas-là parce qu'il faut... Il faut que vous soyez à la fois, si vous voulez, cet adjoint du chef d'établissement, parce que vous êtes incontournable à ce niveau-là, mais aussi cette proximité avec le comité de gestion, en rappelant nos règles de gestion, notre manière de notre politique éducative, notre politique budgétaire à l'agence, qui n'est pas la même que celle d'une entreprise privée, puisque nous avons ici, même un établissement conventionné, doit fournir les comptes, doit fournir le budget et doit faire un bilan de l'activité qui est la sienne, parce que les comités de gestion sont des comités de gestion but non lucratif, dont l'objectif est de remettre tout l'argent et tous les bénéfices, s'il y en a, dans l'établissement pour des projets immobiliers, pour l'amélioration des conditions de vie, pour etc., etc. Donc, je pense que ce premier élément-là, il est très important. Je vais prendre le deuxième parce qu'il est encore facile pour moi. C'est l'agent comptable secondaire. Celui-là, il est très clair. On attend de vous des compétences comptables très explicites et c'est notre agent comptable principal qui prendra in fine la décision de savoir si vous avez les compétences pour exercer dans la spécificité d'un poste. Et puis, il en reste un autre au milieu, sur lequel je vais peut-être laisser mes collègues aussi s'exprimer, qui est le poste de secrétaire général, qui est un poste un peu plus complexe, parce qu'il est entre les deux. C'est-à-dire que le secrétaire général, il est d'abord dans un établissement à gestion directe, ça c'est le clair. Ensuite, dans cet établissement à gestion directe, si vous voulez, il va travailler surtout sur la partie budgétaire, puisque la partie comptable, nous avons fait un travail sur la séparation ordonnateur comptable, et donc nous avons des agents comptables secondaires, et vous allez travailler sur la partie comptable avec l'agent comptable secondaire. En revanche, toute la partie budgétaire, toute la partie gestionnaire de l'établissement, elle vous incombe. Et elle vous incombe avec, en étant le conseil, l'appui et soulager le chef d'établissement en tant qu'adjoint de toute cette partie gestion de l'établissement, mobilière, personnel, etc. Donc, je crois que là aussi, c'est important que vous percevez bien ces trois postes un peu différents sur lesquels nos attendus, vous comprendrez bien, ne sont pas les mêmes.
Ah, en sachant que sur les postes de SG comme de DAF, vous aurez aussi à être des acteurs de terrain. Voilà, c'est tout l'aspect sécurité, l'aspect propreté, etc., etc. Tout ce que vous connaissez pour certains dans un EPLE en France s'applique également à l'étranger avec quelquefois des contraintes d'ailleurs supplémentaires liées à la réglementation locale. Donc, il faut aussi toujours jongler entre nos impératifs et nos règles française en la matière et sa compatibilité aussi avec les exigences réglementaires du pays d'accueil. Donc, ça demande une gymnastique aussi, une certaine ouverture, parce que c'est la laïcité à la française, mais avec quelquefois une adaptation qui ne va pas être non plus totale, mais ça veut dire être en relation avec des élèves, parfois, avec des parents d'élèves, également des parents d'élèves qui ont une exigence très très forte dans nos établissements, eu égard à ce que je vous disais au départ, hein, des frais de scolarité, et des frais de scolarité importants dans nos établissements. Et donc, une exigence très, très forte. Peut-être parfois des difficultés de paiement ou de règlement, etc., parce que l'objectif de nos établissements est certes de scolariser les enfants de nos compatriotes, expatriés dans les pays, mais c'est aussi d'asseoir l'influence de la France, puisque c'est bien pour ça que nous sommes rattachés au ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est une ouverture aussi à des élèves allophones, à des élèves aussi venant de pays tiers. Donc ça, c'est aussi une dimension et une particularité qui m'amène simplement à juste une petite question. Je ne sais pas si on avait beaucoup de postes où il y avait des niveaux de langue exigés oui, cette année. Je pense qu'on en a quelques-uns. Quand on a pris la peine de l'indiquer, c'est pas facultatif, c'est pas je me débrouillerai, je saurai aller acheter ma baguette. C'est parce que vraiment, on a besoin à titre professionnel de pouvoir s'exprimer dans la langue locale ou requise, lorsque c'est l'anglais dans un pays d'Asie, par exemple, dans les relations à la fois avec les parents, avec certains personnels de droit local aussi, même si vous allez me dire, théoriquement, dans un établissement d'enseignement français, on parle français, oui, mais pas que. Et il se peut aussi qu'il y ait des comités de gestion qui soient plus à l'aise dans une autre langue que la nôtre.
Quand il y a des négociations également avec des fournisseurs, par exemple, c'est important de maîtriser la langue.
Donc, positionnez-vous bien. Ne pensez pas que cela soit purement un détail. Alors, ça ne peut pas être le moteur et le motif, la motivation première de votre candidature, puisque les compétences professionnelles, on recrute, nous, des professionnels. On recrute pas des potentiels. C'est pour ça qu'on exige une certaine expérience métier, y compris dans la durée, parce que vous serez des professionnels et des experts métiers. Voilà. Et nous viendrons vous apporter le vernis AEFE, les compétences un peu spécifiques nécessaires à l'étranger, mais le cœur de votre métier, vous devez l'avoir et le maîtriser.
Un dernier peut-être élément pour ma part, c'est lié à la mission que vous allez exercer, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. On attend de vous que vous soyez exemplaire dans la mission que vous allez faire. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, on représente la France à l'étranger. Donc, on a quand même à chacun de nous à l'étranger est regardé, scruté. Et donc, l'image que vous allez renvoyer d'un cadre français à l'étranger est fondamentale aussi aux yeux des parents d'élèves qui sont là, mais aux yeux des postes diplomatiques, voire des gouvernements qui regardent aussi attentivement les lycées français dans lesquels nous exerçons. Donc cette exemplarité, elle est vraiment au cœur de la mission. Et là-dessus, pour nous, à l'AEFE et dans la gestion avec la direction, on est très exigeant, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas qu'il y ait la moindre défaillance à ce niveau-là. Et on est là pour vous accompagner. Si à un moment donné, vous êtes dans un doute, si vous êtes dans un questionnement, n'hésitez pas à solliciter, vous verrez, soit la direction des affaires financières, soit l'agence comptable principale, soit le secteur géographique, soit la DRH. Et nous sommes tous en relation, donc on n'aura aucune difficulté à vous trouver le bon interlocuteur pour vous apporter la réponse la plus adaptée à votre questionnement. Exemplarité. Deuxième élément fondamental, l'engagement. C'est-à-dire que je sais que dans les métiers que vous exercez aujourd'hui, vous êtes tous très pris, très engagés, et vous faites ça, j'en suis certain déjà, avec énormément d'abnégation et d'engagement. À l'étranger, ça va être encore plus important, parce que vous êtes d'abord souvent un seul référent pour des tas de questions qui touchent, par exemple, au métier, on vous parlait des compétences métiers, qui sera le vôtre. D'ailleurs, vous allez être à la manœuvre à la fois des parties budgétaires. Je pense par exemple aux frais de scolarité. Vous allez devoir travailler sur les frais de scolarité. Et ça, c'est un sujet important parce qu'il est au cœur du développement de l'établissement et de la gestion financière de son établissement. Mais vous allez être aussi les garants du recouvrement. On parlait des frais de scolarité et des gens qui ont peut-être parfois des difficultés à payer. Mais vous allez être aussi au cœur des bourses scolaires, puisque nous avons des bourses scolaires qui sont mises en place dans ce réseau pour accompagner les personnels français qui peuvent avoir les enfants de personnels français qui peuvent être en difficulté. Là, vous ne serez pas seul, le consulat intervient, c'est tout un process qui est bien au clair, mais vous voyez bien que vous allez toucher à tout un tas de compétences transversales qui sont peut-être un peu différentes de celles que vous avez. Et puis, vous avez, ça a été venu, on a le problème immobilier, on a le problème des personnels, donc vous allez être interrogé peut-être sur les contrats de travail des personnels de droit local, vous allez être interrogé par les personnels détachés sur comment ils font pour se faire rembourser telle et telle chose, etc. Donc, vous voyez bien que la relation au personnel, elle va être quand même aussi au cœur de votre fonctionnement. Et donc, cet engagement, il va être total. Et puis, il va falloir peut-être que dans certains établissements, si je peux me permettre cette expression, vous mettiez parfois les mains dans le cambouis. C'est-à-dire qu'il va falloir que, avec le chef d'établissement, peut-être parce que vous n'avez pas des personnels, il y a des établissements sur lesquels vous candidatez qui sont des gros établissements où le nombre de personnels administratifs est important. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, vous devrez accompagner avec le chef d'établissement l'organisation d'un événement, l'organisation. Et on attend de vous que là, vous soyez un vrai gestionnaire de cet établissement et que vous soyez à côté du chef d'établissement pour piloter, aider et, je dirais, presque anticiper toutes ces actions qui peuvent avoir lieu dans les établissements. Donc, on attend cet engagement total de votre part dans la mission qui sera la vôtre. Ça fait partie, si vous voulez, d'éléments structurants pour nous de la mission que nous vous confierons si nous vous recrutons. Donc, n'en ayez pas peur non plus, hein. On attend de vous d'avoir des compétences métiers et tout le monde y arrive. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a un niveau d'exigence et il y a un niveau d'engagement. Ça, c'est clair et ça, c'est au cœur de la mission. Après, la deuxième chose importante, c'est la relation que vous allez savoir développer avec le chef d'établissement. Parce que là aussi, elle est au cœur, très souvent, de la réussite de la mission. C'est un binôme, c'est un vrai binôme, c'est un travail au quotidien, ce sont des échanges, ce sont des questionnements, ce sont des interrogations. Et puis, il faut avoir cette capacité à apporter le questionnement. Après, il y a un chef. Le chef, il décide parce qu'il a pris des renseignements auprès de l'agence. Peut-être l'agence lui a donné des directives. La décision est prise et nous sommes tous loyaux envers ces décisions. Et le dernier point, justement, que je voulais aborder, c'est la loyauté. Loyauté à votre chef, loyauté à l'ambassade, loyauté à l'AEFE. Et donc là-dessus, eh bien, là aussi, les attentes de l'agence à ce niveau-là sont à la hauteur de la mission que nous allons vous confier. Donc, sans vouloir vous décourager, loin de là, mais je pense qu'il vaut mieux vous avertir, c'est le but de ce webinaire, il vaut mieux vous donner de l'information pour que vous veniez, et nous espérons que tous vous allez faire un dossier de candidature, que vous veniez en connaissance de cause et dans un choix éclairé pour venir candidater sur les postes que nous allons mettre, que nous avons mis au mouvement cette année. Voilà ce que je voulais peut-être préciser. Y a-t-il d'autres éléments ?
Peut-être sur les vœux.
Oui,
peut-être
oui,
sur les vœux, préciser également que un vœu unique, c'est pas un gage d'être retenu. Loin de là, en règle générale, pour nous, c'est même rédhibitoire. Donc, on ne vous demande pas de cocher toute la liste. Forcément, on vous demande de mettre des priorités et là où vous souhaiteriez aller avec une certaine souplesse. Hein. Soyons clairs, les postes les plus demandés, forcément, si vous ne mettez que ce poste-là, ça réduit d'autant les possibilités de pouvoir partir. Après, on comprend tout à fait que pour des raisons personnelles, familiales, il y ait des endroits où vous ne souhaitiez pas candidater parce que des origines familiales, parce que des conditions sécuritaires et autres. Donc ça, on peut entendre qu'il y ait une exclusion de certaines destinations parce que trop loin de la France, etc., etc. C'est entendu, mais on a besoin quand même d'une certaine souplesse et d'une certaine ouverture géographique, ne serait-ce que parce qu'il arrive, et c'est arrivé l'an dernier, en tout cas cette année, d'avoir des postes qui se libèrent tardivement et qui viendront donc s'ajouter à la liste des postes qui auront été publiés. Et donc, ce qui nous permettra, nous, de pouvoir nous projeter et vous projeter sur un de ces postes devenus vacants et, le cas échéant, de vous en faire la proposition.
On a fait le tour des questionnements. Écoutez, merci.
Peut-être regarder, peut-être le temps juste une ou deux, de répondre à peut-être une ou deux questions.
Concernant le niveau de langue exigé, en fait, quand on indique qu'il faut avoir une maîtrise pratique ou courante de la langue, le niveau B2 en fait, du CECRL est un niveau qui est attendu en fait, sur les postes où on a besoin d'une pratique quand même intéressante de la langue. Après, si vous n'avez pas de justificatif à produire, il peut y avoir des sites internet qui permettent de s'auto-évaluer. Nous, en fait, c'est sur du déclaratif qu'on se base sur du déclaratif. Après, voilà, ne soyez pas, essayez d'être le plus objectif possible, justement pour ne pas être en difficulté si vous devez prendre un poste où on a besoin d'une maîtrise de la langue.
Ça sera regardé par le poste diplomatique de toute façon, oui. Parce que si vous voulez, dans la relation avec notamment les comités de gestion, voire avec nos interlocuteurs dans les pays dans lesquels nous sommes, la maîtrise de la langue est souvent exigée pour que vous puissiez assister à des réunions importantes. Et donc là-dessus, ça peut être un élément qui sera regardé par l'ambassade et qui peut vous amener à ne pas avoir l'agrément si vous n'avez pas cette qualité langagière attendue.
Il y a une question par rapport à des collègues qui sont de la fonction publique territoriale. Donc, on accepte les dossiers de tous les fonctionnaires qui sont titulaires de la catégorie A. Après, effectivement, sur le dossier de candidature, c'est plutôt adapté à des collègues qui sont en poste au ministère de l'Éducation nationale ou à l'étranger, adapté en fait le circuit de la voie hiérarchique à la pratique qui est celle de votre poste. On accepte aussi des avis rédigés sur des papiers libres si ça ne correspond pas au cadre de la dernière page du dossier. Vraiment, il ne faut pas vous focaliser sur ce formalisme de la dernière page. Hein.
Alors, est-il possible, après la mission, de travailler en tant que contractuel de droit local dans l'établissement? Ça, c'est à vous de décider en fonction des possibilités offertes par l'établissement et la possibilité d'obtenir ou pas une disponibilité de la part de votre administration d'origine et d'être recruté. Voilà,
en sachant que si c'est dans le même établissement, quand même, il faut être très clair. Le poste, s'il est pourvu par un détaché, au bout de 5 ans, vous allez partir et on mettra quelqu'un d'autre. Je crois que ce sera quelqu'un d'autre. Le but du jeu, pour nous, c'est aussi par des changements de personnes, c'est d'avoir un vivier qui se renouvelle, d'avoir une nouvelle lecture des établissements. Et donc, si le poste est créé, il a vocation à durer. Donc, au bout de 3 ou 5 ans, si jamais le poste reste, il vous faudra candidater ailleurs. Parce que c'est la règle de notre système et on est dans ce schéma-là pour que il y ait justement ce mouvement de personnel et cette richesse apportée par des gens qui arrivent, qui découvrent, qui arrivent avec des expériences et qui nous permettent à nous de faire évoluer positivement nos établissements. Donc on a besoin de cette richesse-là et c'est pour ça que vos candidatures, elles sont toutes, pour toutes et tous, elles sont très intéressantes justement parce que vous avez des expériences différentes et que ces expériences vont apporter un plus à nos établissements.
Alors l'adresse pour les questions personnelles, on va la mettre justement sur le chat pour que vous l'ayez.
Voilà, nous.
Oui, je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions particulières. En tout cas, merci à toutes et à tous.
Voilà, donc normalement, vous avez maintenant accès à notre mail qui vous permet de contacter les personnes. De toute façon aussi, vous pouvez appeler par téléphone si jamais vous avez des questions à poser. Laura et ses collègues feront plaisir de vous répondre et d'essayer de vous donner les éléments nécessaires à vos interrogations. Et donc, à partir de ce moment-là, On continue à être à vos dispositions et merci en tout cas. Bonne continuation dans vos fonctions actuelles et peut-être à très bientôt. Merci à toutes et tous.
Mmh.